des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de notre série mensuelle des villes et des hommes, consacrée aujourd'hui aux vivants dans la ville. Nous avons choisi un titre amusant. Vous reprendrez bien un peu de nature dans votre ville. C'est-à-dire que nous allons parler aujourd'hui de cohabitation sous toutes ses formes entre d'une part la société humaine et d'autre part la faune, la flore, les milieux naturels. Alors, serait-il donc possible de concilier ville et biodiversité ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, Institut Paris Région. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et Joachim Lemery. Joachim, qui est directeur adjoint de l'ingénierie de projet biodiversité et management des connaissances chez Eiffage.
Bonjour Valérie, bonjour Marc.
Alors Marc, la question qui me taraude, c'est que la biodiversité, la faune, la flore, ont longtemps été tout juste tolérées en ville, voire très souvent chassées de nos milieux urbains, et désormais, la biodiversité est réinvitée de façon impérieuse. Et en tant qu'écologue, comment expliquez-vous ce rapport attraction-répulsion qui peine finalement à trouver son équilibre ?
Eh bien, je dirais que c'est un rapport culturel. Finalement, on hérite aujourd'hui des fruits de la pensée hygiéniste qui vient de Descartes, hein, l'homme en maître et possesseur de la nature, finalement, et qui colporte avec lui, finalement, cette idée de peur du sauvage, les moustiques, les rats, les miasmes. On a fait tout pour mettre la nature à l'extérieur des villes. Il faut rappeler que, finalement, cet urbanisme hygiéniste, il a permis d'endiguer un certain nombre de pandémies à une certaine époque, mais il nous a aussi éloignés de la nature. Donc ça vient d'ici. Je pense aussi aux grandes écoles du paysage qui ont véhiculé cette idée d'une nature qui était purement esthétique, ornementale.
Le fameux jardin à la française.
Exactement, horticole, et qui finalement nous laisse penser que la nature c'est juste de la décoration, alors qu'on sait que c'est bien plus que ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est en train de changer du point de vue culturel. Peut-être que le confinement fait son petit effet aussi, où on a appris à voir un petit peu la nature de proximité, à entendre les petits oiseaux, les petites bêtes, et puis cette idée du sauvage qui revient progressivement, et des auteurs qui nous parlent du sauvage. Je pense aux travaux d'Audrey Muraté, par exemple, sur les friches, qui montrent que en ville, les friches abritent plus de biodiversité que les jardins qui sont entretenus, et ça, c'est assez inattendu, et ça change un peu notre rapport à la nature.
Alors justement, Marc, vous venez de le dire, le sujet de la nature en ville aujourd'hui revient. Est-ce que ce serait pas aussi à mettre dans le contexte d'une perte d'habitat naturel assez épouvantable qui est liée à la consommation effrénée d'espace? Je rappelle quand même juste quelques chiffres. Au niveau mondial, les 40 dernières années ont été catastrophiques, je pense qu'on peut le dire. Les évaluations vont toutes dans le même sens. Le dernier rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, évalue la biodiversité des services écosystémiques. 75% de la qualité écologique de la surface terrestre est altérée de manière significative. Ça, je pense qu'on peut le retenir. Et c'est sur tous les continents la même chose. Plus de 85% de la surface des zones humides ont disparu, ce qui est gravissime puisque ce sont des réservoirs de biodiversité. Et puis, en 40 ans, on a à peu près 4000 espèces de vertébrés qui ont décliné, dont la population a décliné de plus de 65%. Alors, pour la France, le constat n'est pas très brillant non plus. Le rapport de l'Office national de la biodiversité de 2018 a établi qu'un quart des espèces faunistiques et floristiques françaises étaient éteintes ou gravement menacées. Alors, Joachim, dans ce contexte sombre d'érosion rapide de la biodiversité, quelle est la place de la biodiversité en ville ?
Alors, la place, elle est partout, cette biodiversité, parce qu'en fait, l'homme fait partie de la biodiversité et le citadin est un humain. Donc, Homo sapiens sapiens a une présence très forte, très visible en ville.
Un peu envahissante quand même.
Voire très envahissante. Mais néanmoins, elle n'est pas forcément toujours visible non plus. Petite anecdote, 800 pipistrelles, qui sont des petites chauves-souris, ont été inventoriées dans un tunnel désaffecté de la Petite Ceinture à Paris. Mais comme elles font moins de 20 cm d'envergure, à part les spécialistes, personne ne les voit, ces pipistrelles. Bref, partout, malgré tout, on constate que la biodiversité urbaine est en recul. 73% de moineaux en moins à Paris entre 2003 et 2016, à peu près en moins de 15 ans, une perte assez colossale. Moi, j'aime quand même imaginer que tout n'est pas négatif. La biodiversité en ville, elle existe, elle résiste, elle persiste. À Paris, entre les bois de Boulogne, les bois de Vincennes, les parcs, les jardins, la Seine, ce sont près de 2800 espèces sauvages qui ont été observées depuis 2010. À Lyon, des inventaires participatifs, des sciences participatives de tout le monde, ont identifié en 2019 pas moins de 1650 espèces.
1650, faune et flore.
Faune et flore dans le premier arrondissement. C'est assez colossal. Et puis, un chiffre extrêmement intéressant, avec l'abandon des produits phytosanitaires, des pratiques de gestion des espaces verts notamment, on relève plus 92% d'augmentation de la flore au sein des interstices urbains ces 7 dernières années en Île-de-France.
Alors Marc, vous qui êtes écologue et spécialiste en Île-de-France, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Oui, effectivement, il y a un constat général de déclin de la biodiversité sur tous les groupes d'espèces, mais aussi des bonnes nouvelles, comme Joachim l'a dit. En fait, ce qu'il faut comprendre en matière d'écologie, c'est que les villes, elles agissent comme un filtre, des filtres, sur la biodiversité, en créant de la fragmentation, en réduisant la taille des espaces verts qui deviennent du coup trop petits pour avoir des espèces, puis en générant tout un tas de pollution ou de dérangement finalement. Ce qui fait qu'avec ces filtres, on voit qu'un certain nombre d'espèces qui arrivent à se maintenir dans les villes, là où on pourrait en avoir beaucoup plus. Donc voilà tout l'enjeu maintenant, en fait, c'est de réfléchir à la façon dont on fait les villes. Et jusqu'à présent, on a d'abord fait des infrastructures bâties, et puis on est venu mettre de la nature par-dessus. Et donc c'est pas la bonne méthode. Il faut penser par rapport à la biodiversité, à ses besoins, et essayer d'adapter la ville en conséquence.
Alors, construire la ville en conséquence de la biodiversité, non l'inverse. Excellente transition, Marc, vers notre première partie. Nature en ville, nature et ville, une opposition apparente.
Des villes et des hommes, le débat, première partie.
Alors, tout d'abord, est-ce qu'on pourrait un petit peu lister et détailler les différents facteurs d'érosion de la biodiversité ? On les connaît en général, mais on a aussi des idées reçues. Joachim.
Alors, on le sait, la biodiversité, elle est confrontée à de nombreuses pressions et ça se retrouve en ville, ces pressions. La fragmentation des milieux naturels, c'est pas seulement les infrastructures linéaires qui traversent le territoire, c'est aussi les tâches urbaines qui fragmentent énormément, le changement climatique, les pollutions chimiques et lumineuses et l'artificialisation des sols, notamment. C'est un des premiers sujets de pression que cette artificialisation des sols et toutes ses conséquences. Nous vivons dans des villes bétonnées, vitrifiées, souvent. Les données varient, beaucoup de données sont brassées, elles sont un peu différentes les unes des autres, mais elles convergent toutes pour montrer qu'en France, l'artificialisation est supérieure, le rythme d'artificialisation est supérieur à la moyenne européenne et croît 3 fois plus rapidement que la population. Et donc, selon un excellent rapport de France Stratégie de 2019, le taux moyen d'artificialisation est d'environ 20 000 hectares par an, soit
minimum,
soit à peu près 20 000 stades de foot, si on veut donner un peu un ordre d'idée. Et donc, voilà le constat sur les atteintes.
Alors Marc, dès qu'on parle d'artificialisation des sols, on pense immédiatement aux difficultés que cela crée sur la gestion, quant à la gestion des eaux pluviales, mais j'imagine que ce ne sont pas les seules conséquences négatives.
Ce ne sont pas les seuls. En fait, d'abord, l'artificialisation au sens large, c'est le grignotage des terres, des espaces naturels, agricoles et forestiers. On sait que c'est un fléau depuis des années. Ça fait 30 ans que les urbanistes comme les environnementalistes disent qu'il faut mettre un terme à l'étalement urbain. C'est un peu dans ce contexte qu'en 2008, le gouvernement a proposé cette idée du zéro artificialisation net. Autrement dit, se fixer un horizon pour stopper l'artificialisation des sols. Et il y a énormément de débats en ce moment, en fait, sur cet objectif ZAN, pour zéro artificialisation net.
La façon de l'appliquer.
Et voilà, et des débats contradictoires sur la façon de l'appliquer. Pour autant, ce que je constate, c'est qu'en lisant l'ensemble des rapports d'experts ou les positionnements d'experts, on connaît déjà les solutions pour arrêter de mettre un terme à l'artificialisation des sols. Elles sont notamment en rapport avec la fiscalité, le rapport de Guillaume Saint-Denis, qui date de 10 ans, mais qui est toujours d'actualité, qui montre qu'en réformant la fiscalité, on pourrait limiter l'extension urbaine. On connaît aussi le levier des documents d'urbanisme. Évidemment, les collectivités peuvent fixer une enveloppe maximale de constructibilité dans leur périmètre et réduire l'artificialisation des sols. Il y a ces demandes de moratoire sur les surfaces commerciales en zone périurbaine qui sont aujourd'hui largement contestées. Il y a aussi le fait de pouvoir interdire des constructions s'il reste dans les enveloppes urbaines des gisements disponibles sur l'existant. Donc voilà, quand on lit l'ensemble des propositions, finalement, qu'elles viennent de la Ligue de protection des oiseaux, qu'elles viennent du Club Ville et Aménagement, qu'elles viennent même de la Convention citoyenne, elles convergent toutes vers ce type de solution.
J'imagine que pour que la biodiversité puisse s'épanouir en ville, il faut un espace sans interruption qui soit minimal. On ne peut pas avoir juste un mitage de quelques petits interstices réservés, si je puis dire.
Oui, effectivement, réduire l'étalement urbain, c'est qu'une partie du chemin. Derrière, il y a une question qui est centrale, c'est jusqu'à quel point on peut densifier les villes sans nuire à la biodiversité. On ne pourra pas aller trop loin non plus, il faut garder des espaces verts. Et pour cela, ce que disent des études scientifiques intéressantes, il y en a notamment une sur 75 métropoles européennes, qui indique que la taille des espaces verts, des espaces de nature dans les villes a de l'importance, et qui dit que minimum il faudrait entre 1 hectare et 4,4 hectares d'espace pour accueillir des espèces dont on a l'habitude en ville, on va dire qui sont familières de la ville, et qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, jusqu'à 53 hectares si on voulait accueillir dans les villes des espèces qui fuient habituellement le milieu urbain, et je pense notamment aux rapaces, aux petits mammifères, etc. Il y a une autre étude que je peux citer de chercheurs qui montre qu'il faudrait 30% de végétation ou de points d'eau autour des habitations dans un rayon de 250 mètres pour avoir une biodiversité de qualité et une qualité de vie d'ailleurs pour les humains. Voilà, donc ce sont que des chiffres. La ville idéale n'existe pas pour la biodiversité, mais en tout cas, ça peut donner une sorte de canevas, une sorte de grille de lecture pour la concevoir.
Et puis, j'ai tendance à dire que vos propos me rappellent la toute première émission de la série des villes et des hommes sur les îlots de fraîcheur, où on avait été amené à étudier des grands projets de métropoles mondiales, comme par exemple Montréal, qui sont en train de créer des parcs de plusieurs centaines d'hectares, à la fois pour répondre à la problématique des îlots de chaleur en ville, et également de la reconquête de biodiversité. Alors, Joachim, vous êtes d'accord avec tous ces constats ?
Alors, je suis évidemment d'accord, mais il ne faut pas oublier une chose, une composante essentielle à la nature, c'est le support de la nature que représente le sol et les sols, la qualité des sols. Sans qualité des sols, il peut y avoir plein de mitages de nature ou de jardin, ça ne marchera pas très bien. Les sols résiduels en pleine terre, en ville, sont souvent des sols fortement pollués, malheureusement, pour des raisons diverses, historiques, pollution historique non traitée par des industries, pollution liée à la circulation routière, il ne faut pas l'oublier, etc. Et les sols de mauvaise qualité sont en fait pauvres en biodiversité, alors que la richesse organique dans les sols, elle est nécessaire justement à cette croissance des végétaux ou à l'infiltration elle-même nécessaire aux végétaux. Juste, je rappellerai l'astrophysicien Hubert Reeves qui nous le dit depuis un certain nombre d'années, notre survie dépend des sols et en particulier des vers de terre qui y logent. La disparition des vers de terre est un phénomène aussi inquiétant que la fonte des glaces, nous disait-il.
Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Marc, je crois que la ville de Berlin a lancé aussi un atlas de la qualité des sols. La ville de Berlin qui est très en avance sur tous ces sujets.
Oui, tout à fait. Joachim a raison. Les sols, c'est une composante essentielle de la biodiversité. Vous citiez l'IPBES tout à l'heure, qui rappelle qu'il y a 25% de la biodiversité connue qui se trouve dans les sols. Mmh. Donc un compartiment essentiel. Et à Berlin, ce qu'ils ont fait d'innovant, c'est qu'ils ont fait une cartographie de la qualité écologique des sols avec différents indicateurs qui sert aujourd'hui d'outil d'aide à l'aménagement pour les aménageurs publics et privés de la ville. Et donc cette connaissance en plus nous est utile. Je remarque qu'en France, il y a de plus en plus de bureaux d'études aujourd'hui qui sont spécialistes du diagnostic écologique des sols et donc ça va nous être utile à l'avenir.
Des bureaux d'études et puis aussi des associations qui sont de plus en plus spécialisées. En France, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif particulièrement actif et compétent sur les sujets de biodiversité. Et nous avons donc interviewé l'une de ces associations, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est aujourd'hui la plus importante association de protection de la nature en France en termes de nombre d'adhérents, 57 000, 400 salariés, 8 000 bénévoles. Bref, pour nous en parler, Elsa Caudron, qui est la responsable du programme Nature en ville à la LPO.
Quel constat, Elsa, faites-vous à la LPO concernant la problématique des collisions de l'avifaune avec le bâti ?
Eh bien, on n'a pas de chiffres en France exacts, mais nous, on a en moyenne sur 15 ans, sur 100 000 animaux accueillis, il y en a à peu près 15 000 qui le sont par des collisions diverses, dont certaines sont affiliées au ver. On a du mal à avoir des chiffres exacts, mais il y a une étude qui est parue aux États-Unis, qui s'appelle Bird Building Collision in the United States. Et on se rend compte qu'il y a jusqu'à 1 milliard d'oiseaux estimés qui sont morts de collision aux États-Unis. Et donc en France, on a certainement une mortalité qui est moindre proportionnellement parce qu'on a moins de haut building en verre. Mais c'est quand même un problème récurrent dans la construction parce qu'on a beaucoup d'immeubles qui sont issus un peu de l'architecture de l'école de Chicago avec des grandes surfaces en verre que les animaux perçoivent pas en fait. Soit ça réfléchit le milieu, soit ça c'est transparent. Et donc les oiseaux viennent se fracasser sur les vitres parce que ils n'ont pas exactement la même vue que nous.
Alors quelles sont les actions entreprises finalement par la Ligue de protection des oiseaux à ce sujet et avez-vous déjà repéré des solutions constructives intéressantes?
Oui, alors il existe plein de solutions. Donc nous, on accompagne des projets d'aménagement, enfin des projets de construction et le mieux, c'est de mettre en œuvre des choses avant que le bâtiment soit construit. Ça laisse plus de marge de manœuvre à l'architecte. Ou bien on intervient aussi quand on fait la constatation qu'il y a beaucoup de collisions. Donc on a mené des partenariats avec la société de véranda à Kena, par exemple. Ensuite, on a accompagné des projets comme Euratlantique à Bordeaux. C'est un projet qui est avec des grandes surfaces vitrées, qui est à côté de la Garonne. Donc c'est un couloir migratoire qui est vraiment important. Donc on s'est dit qu'il y aurait beaucoup de collisions à venir. Et donc on a fait un travail sur les façades avec Euratlantique pour proposer pour éviter que les oiseaux se cognent sur les vitres. Donc le mieux c'est vraiment de réfléchir à mettre des verres qui soient pas très réfléchissants et qui sont pas trop transparents. Donc on peut imaginer aussi des verres polis, ce genre de solution.
Alors Elsa, vous êtes responsable, je le rappelle, du programme Nature en Ville à la LPO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'idée de ce programme?
Alors ce programme, il a été créé en 2012. L'idée, c'est qu'on voyait beaucoup de sujets émergents sur la ville durable. Et donc on travaillait depuis un moment hein, sur les espèces du bâti, par exemple. Donc l'objectif, c'était d'élargir l'action de la LPO sur le milieu urbain. Parce qu'on voit qu'il y a des enjeux forts de biodiversité également en ville. Donc de travailler autour des thèmes, des trames écologiques, de se saisir de la question de l'urbanisme. Et donc depuis 2012, nous rassemblons des différents acteurs de la ville autour d'un club qui s'appelle le Club d'urbanisme bâti et biodiversité, le Club U2B. Et on se rejoint 3 à 4 fois par an pour discuter de thèmes tels que par exemple la collision verte ou bien les trames écologiques ou encore l'alternative à l'artificialisation des sols. Et donc ces clubs ils permettent de se rencontrer et de trouver des solutions innovantes, enfin d'entendre des entreprises ou des collectivités qui partagent leurs idées. Et on accompagne également des projets. Donc avec des constructeurs, des promoteurs immobiliers ou des collectivités. Et ça nous permet de définir, d'aller plus loin que les simples préconisations qu'on peut faire après, par exemple de juste mettre des nichoirs. Ça permet d'accompagner le projet sur toute sa longueur et définir des zones à enjeu, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et à terme, pour le développement du programme, on souhaite davantage cibler la formation. Parce que ça nous permet que les entreprises comprennent en interne quelles actions elles peuvent mener sur leur projet. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on essaye de poursuivre.
Eh bien écoutez, Elsa Caudron, merci beaucoup pour tous ces éclairages dans cette nouvelle émission des villes et des hommes. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, on le disait, la Ligue pour la protection des oiseaux compte plus de 57 000 adhérents et 8 000 bénévoles actifs, ce qui prouve quand même que toutes les initiatives de soutien à la biodiversité, qu'elles soient ordinaires ou pas ordinaires, attirent beaucoup de citoyens et ça nous permet d'entamer notre seconde partie, la nature en ville ou la redécouverte d'un lien vital.
Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
Alors, quand on parle de nature et de lien vital, on n'est pas dans l'exagération, hein, puisque les sociétés humaines tirent gratuitement de la nature un certain nombre de services écosystémiques qui nous procurent des bénéfices essentiels. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, dépollution de l'air, dépollution des sols, de l'eau, rafraîchissement, je refais référence là à l'émission Îlot de fraîcheur du début d'année, ou encore contribution au bien-être physique et au bien-être moral des habitants. Ces services écosystémiques sont d'autant plus importants en milieu urbain quand on sait que 2 personnes sur 3 habiteront dans les villes ou leur périphérie d'ici 2050. Alors Marc, ces services écosystémiques, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Eh bien, je peux vous en dire qu'en ville, il y a de plus en plus d'études qui quantifient en fait ces services et ces bénéfices apportés par la nature, et du coup ça nous apporte des billes et de l'argumentaire. On peut notamment citer la question du rafraîchissement que vous avez déjà abordé, et du fait que la nature en ville, notamment les arbres de grande hauteur, les parcs de grande taille, rafraîchissent la ville. Il y a une étude de Météo France qui montrait pendant la canicule de 2003 qu'il y avait un écart jusqu'à 8 degrés entre le centre-ville de Paris et sa banlieue, donc c'est assez considérable, qui est dû à la minéralité de Paris. Quand on regarde les expérimentations en cours, je pense à celle de Lyon sur la rue Garibaldi, qui a montré qu'en plein été, les arbres de l'avenue permettaient de rafraîchir jusqu'à 3 degrés. Si toutefois ils étaient arrosés, et ils ont en plus lancé une expérimentation avec la réutilisation des eaux pluviales, donc ça fonctionne sur le rafraîchissement, ça fonctionne aussi sur l'amélioration de la qualité de l'air. Les arbres agissent comme des filtres à particules. Finalement, il y a une thèse sur l'agglomération de Strasbourg, de Wissal Selmi, qui a évalué à peu près à 80 tonnes de particules fines retirées par les arbres sur l'ensemble de l'agglomération. Donc ça ne devient pas du tout négligeable.
Sur quel par an ?
Par an, oui, par an, sur l'ensemble de l'agglomération, c'est énorme. Et enfin, ce rôle d'éponge, si on peut dire, de la nature en ville, pour l'absorption de l'eau, pour la gestion du ruissellement, du risque d'inondation. Et là aussi, on a 2 super exemples en Ile-de-France de recréation de zones humides qui servent de zone d'expansion de crues. Je pense à la zone du Vinois à Gonesse, qui a été fait par le SIA, et qui est sur 12 hectares, permet de stocker plus de 50 000 mètres cubes d'eau, pardon. Et puis ensuite, la renaturation de la Bièvre aussi à Igny dans le 91, qui sert aujourd'hui d'expansion des crues, alors qu'on avait au préalable une rivière canalisée.
Oui, ça se fait beaucoup, hein, les remises à ciel ouvert, si je puis dire, d'un certain nombre de rues ou de ruisseaux qui avaient été artificialisés ou qui avaient été cachés. L'un des grands avantages de la réintroduction de la nature en ville, c'est aussi de recréer du lien entre bien-être humain et nature. Alors justement, on avait déjà eu l'occasion dans cette émission d'évoquer le projet de l'écoquartier La Vallée sur le site de l'ancienne école centrale en lisière du parc de Sceaux, à Châtenay-Malabry. Et la conception de cet écoquartier bénéficie d'un partenariat de recherche assez unique entre l'Université Gustave Eiffel et l'École nationale des ponts et chaussées et EFAGE. Et Joachim, est-ce que vous pourriez nous parler notamment des ateliers de recherche qui sont dédiés à la nature dans ce futur écoquartier ?
Eh bien oui Valérie, je vais préciser vos propos sur cet écoquartier et ce programme de recherche. Donc c'est un programme de recherche qui s'appelle E3S comme écoquartier, sobre, smart et sûr, et qui mobilise presque 60 enseignants-chercheurs et 25 professionnels d'EFAGE au sein de 8 ateliers thématiques qui couvrent tous les champs de la ville durable, l'énergie, la construction, la santé, la sociologie, etc. Et le projet de recherche se déroule en parallèle de la première phase du chantier jusqu'en 2022, donc on est vraiment dans du in vivo. Et l'un des ateliers porte justement sur le lien entre la nature et le bien-être en ville.
Oui, il faut quand même dire que c'est un écoquartier qui fait vraiment la part belle à la nature et que la mairie insiste sur l'appellation, je crois, de ville-parc.
Et oui, on est en plus à côté du parc de Sceaux, ouais, donc exactement. C'est quelque chose d'assez important pour ce projet. Et une chose nous a surpris au préalable, c'est la demande forte des futurs habitants en faveur de la nature, en faveur de nature et de végétation. Un sondage réalisé dans la maison du projet, destiné aux futurs habitants, nous montre que le centre d'intérêt prioritaire de ces futurs habitants se porte sur la ferme urbaine qui est prévue dans ce quartier, et non pas, à notre surprise, sur d'autres problématiques comme des logements sobres, économes en énergie, ou bien des commerces et des services de proximité, ce que tout le monde attend en fait. Donc la demande la plus forte, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'était en faveur de la nature et de la végétation. Et on a voulu en savoir un peu plus sur ce lien entre nature et citadin, et on parle effectivement du lien entre bien-être humain, voire bien-être santé, et citadin.
Oui, je pense que c'est très important ce que vous dites là, parce que sur cet écoquartier, l'un des collègues des Fages Immobiliers me disait que sur les 200 personnes à peu près qui sont à la maison du projet les week-ends, puisqu'elle n'est ouverte que les week-ends, eh bien tous les gens qui acceptaient de faire cette espèce de micro-trottoir étaient prioritairement préoccupés par les horaires d'ouverture de la ferme urbaine, qui fait quand même plus d'un hectare, hein. C'est quand même une vraie ferme urbaine. La possibilité de réserver son logement avec vue sur la ferme urbaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir y acheter, est-ce que je vais pouvoir y promener mes enfants le dimanche. Enfin, c'était très étonnant, alors que quand on achète un logement qui est quand même un acte patrimonial fort, et on le fait pas de nombreuses fois dans sa vie, on se préoccupe quand même de l'accessibilité, du prix au mètre carré aussi accessoirement. Eh bien non, premier sujet, la ferme urbaine, la nature.
Ils achètent aussi un morceau de nature peut-être.
Exactement, ils achètent aussi un morceau de nature. Alors justement, on a voulu en savoir un petit peu plus et interviewer la directrice de recherche qui pilote cet atelier avec une postdoctorante, c'est Madame Florence Allard-Poésie.
Alors une première question, bien que peu formalisée, le lien entre nature et bien-être est un ressenti commun en général. Qu'avez-vous découvert grâce aux travaux que vous menez dans cet atelier ?
Alors peut-être qu'effectivement un tel ressenti est une évidence pour nous qui vivons en ville, dans nos climats tempérés. Mais il est loin d'avoir été et être un ressenti commun en tout temps, en tout lieu. Les travaux de recherche antérieurs menés en économie, en psychologie, ne considèrent pas d'ailleurs que la présence de la nature soit un des premiers facteurs de bien-être. Le niveau de revenu, l'état de santé, la présence de relations sociales sont, elles, des dimensions qui sont systématiquement associées au bien-être. Et de fait, lors de l'étude pilote que nous avons menée donc au printemps, on ne s'attendait pas à ce que cette présence de la nature à proximité du lieu de résidence contribue significativement, comme le revenu, la santé, au bien-être des habitants en ville. Nos résultats confirment en outre que la fréquence d'activité qu'on va qualifier de contemplative ou douce, et de même que les caractéristiques mêmes de cette nature, améliore systématiquement le bien-être des résidents, en particulier la dimension psychologique de ce bien-être.
Alors, quand on parle ouais. de... Oui, dites-moi.
Enfin, nos résultats à confirmer, là on est en train de mener une enquête nationale, on pense que finalement ces aspects de nature sont à contraster les uns par rapport aux autres. Autrement dit, on aurait dans l'esprit des résidents une nature qu'on peut qualifier de peu domestiquée, marquée par des bois, de la forêt, éventuellement des champs, qu'on pourrait différencier d'une nature plus organisée, celle des parcs, des jardins, des aires de jeu, et enfin une nature de proximité, celle que nous avons sur nos balcons ou sur nos terrasses.
Bah, alors quand on fait ce constat, quelle suite à donner pour ces travaux ?
Alors, l'enquête que nous menons, que nous avons menée en septembre sur un échantillon représentatif des résidents de plus de 15 ans en zone urbaine en France, va nous permettre en fait d'établir des moyennes de bien-être par catégorie de population. Et sur ces bases, on pourrait envisager de comparer ces scores nationaux avec ceux qu'on obtiendrait sur des résidents dans un quartier spécifique. En tenant compte, bien sûr, du niveau de revenu, des caractéristiques sociales, éventuellement de santé de ces mêmes résidents. On pourrait en outre lier ces résultats avec les caractéristiques, entre guillemets, objectives du quartier en question, comme des mesures de qualité de l'air ou des indicateurs de biodiversité. Enfin, à l'heure de ce nouveau confinement où nombre d'entre nous travaillons à domicile, on prend bien conscience du fait que l'environnement physique de travail est un aspect important de la qualité de vie au travail. Et donc, on pourrait éventuellement faire aussi des études sur l'incidence d'une forte présence de la nature à proximité du lieu de travail sur le bien-être au travail. Il y a peu de travaux sur ces questions et c'est un aspect qui nous semble vraiment intéressant à poursuivre dans les mois, les années à venir.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Florence Allard-Poésie. Je rappelle que vous êtes professeure des universités à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Radio Immo pour cette nouvelle émission des villes et des hommes.
Alors finalement, la question du lien entre nature et bien-être a longtemps été plus une question d'expérience personnelle qu'un sujet de recherche. Et maintenant, ça devient un sujet de recherche. Votre réaction, Marc ?
Oui, effectivement. Alors, il y avait bien des travaux qui existaient il y a quelques années. Je pense notamment au professeur Kaplan aux États-Unis qui montrait les liens entre accès à la nature et repos, bien-être, diminution du stress, etc. Mais c'est vrai que je pense que Florence Allard-Poésie l'a bien dit. Hein, il y a le Covid et la crise sanitaire, le confinement ont donné un coup de fouet à ces recherches aujourd'hui. Et pour info, en Île-de-France, on mène une étude entre l'Observatoire régional de santé et l'ARB Île-de-France sur ces liens santé-biodiversité et surtout comment les traduire de manière opérationnelle dans les politiques publiques et notamment les politiques d'aménagement, qui deux sujets qui sont aujourd'hui un peu traités en silo par des compétences différentes.
Ouais, comme souvent. Alors, autre service écosystémique urbain d'importance, c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau en ville, malheureusement, très souvent interrompu par une surimperméabilisation. Alors, permettre au cycle de l'eau de réinvestir la ville est essentiel pour la résilience urbaine face au changement climatique. C'est la recharge des nappes phréatiques, par exemple, recharge des cours d'eau, désengorgement des réseaux d'assainissement et puis, bien sûr, la réduction du risque d'inondation, notamment avec les pluies torrentielles qui seront l'une des conséquences récurrentes du changement climatique. Alors, pour ne donner qu'un chiffre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rappelle que les arbres à feuillage persistants peuvent intercepter jusqu'à 15 000 litres d'eau par an. C'est considérable, Marc.
Oui, c'est considérable. Encore une fois, il y a cette image de l'éponge qui me vient quand on pense à la nature et aux espaces verts. Cet enjeu de l'eau est hyper important. Chaque année, c'est la même histoire. Pendant les gros orages et les fortes pluies, on a des réseaux, des canalisations qui sont très vite saturés. Alors, on sait très bien faire des solutions de génie civil, mais pour autant, elles sont assez lourdes en termes de consommation de matière.
Les bassins d'orage, par exemple.
Voilà, les bassins d'orage et d'atteinte au sol. Et donc, aujourd'hui, notamment sous l'impulsion des agences de l'eau, on développe de plus en plus des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales basées sur les espaces de nature. Alors on peut penser aux noues, aux abords des bâtiments ou des rues. On pense aux mares urbaines et on pense à ces espaces verts qui deviennent inondables, y compris en ville très dense. Et l'objectif, c'est d'intercepter en fait la pluie là où elle tombe. Et donc aujourd'hui, c'est un excellent levier pour intégrer de la nature et de la pleine terre au sein des projets. Alors moi, en tant qu'écologue, j'ai aussi un regard parfois critique sur ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. J'ai visité beaucoup de noues, de mares urbaines et de bassins de rétention. On manque encore de génie écologique et d'ingénierie écologique pour essayer de les concevoir tels des milieux naturels. Mmh. Et parfois, je m'étonne de voir tant de bâches plastiques, de géotextiles, etc., les mauvaises espèces ou une gestion trop forte. Voilà, il y a encore une progression dans les métiers mobilisés pour faire ces techniques de gestion alternative.
Oui, il ne suffit pas de faire un trou, en fait. Il faut quand même être accompagné par des écologues qui sont capables de piloter ces travaux de génie écologique. Alors, il y a aussi des solutions constructives qui sont directement ancrées dans la conception de la ville. Moi, je pense notamment à la ville de Rotterdam et ses Water Square, qui sont des grands espaces, en fait, qui ont la capacité de jouer le rôle de zone tampon, qui recueillent de très grands volumes d'eau en cas de pluie brutale. Et ces eaux sont dirigées vers les Water Square et ne sont envoyées au réseau d'assainissement qu'une fois les bassins pleins. Puis, ce sont des aménagements, finalement, à ciel ouvert qui peuvent servir à d'autres usages le reste du temps, espace de jeu, place publique, terrain de sport. C'est quand même un exemple assez remarquable. Joachim, je crois que vous l'avez visité.
Oui, c'est important comme exemple et de plus en plus ça se décline sous d'autres échelles avec des noues d'infiltration par exemple ou des parcs urbains au pied d'immeubles qui sont en fait à la fois des noues en période de hautes eaux et puis finalement un parc où il y a du loisir et récréatif le reste de l'année. Le pendant, c'est qu'on constate souvent qu'en ville quand même il existe, et là je vais reprendre une casquette un peu bétépiste, il existe nécessairement des espaces revêtus. Les routes, les trottoirs nous permettent de nous déplacer en sécurité, sinon c'est un peu compliqué. Les passes publiques nous permettent de nous réunir et il vaut mieux parfois qu'elles soient inclusives en étant plates ou avec des revêtements homogènes. Mais il y a quand même des solutions qui limitent cette imperméabilisation et on peut mettre en place des tas de petites choses. Ça peut être des pavés enherbés, disjointifs, des revêtements perméables, des chaussées réservoirs où finalement ça vient remplacer d'autres fonctions. Quand on n'a pas la place, hop, on stocke l'eau sous les chaussées. Et à ce sujet, petite incise, Eiffage Route développe des revêtements perméables comme beaucoup d'autres. Mais un exemple récent, c'est le revêtement biochrome, non seulement basé sur un substitut végétal au bitume à la base de résine usine de pain issue de l'industrie papetière. Et en plus, cet enrobé biochrome joue une capacité de drainage des eaux jusqu'à le rendre parfois perméable, pas totalement, mais un peu, en facilitant le drainage des eaux, en jouant sur la granulométrie des agrégats.
Alors, merci Joachim, c'est une excellente transition puisque nous abordons notre troisième partie avec les solutions urbanistiques et techniques qui favorisent le retour de la biodiversité en ville.
Des villes et des hommes, le débat, troisième partie.
Alors, l'urbanisme, comment combine-t-on l'acte de construire avec celui de conserver ou de développer la nature en ville ? Joachim.
Eh bien, Valérie, comme toujours, l'acte de construire nécessite une approche systémique. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est réunis aujourd'hui et à travers toutes ces émissions. Avant de penser à intégrer des solutions aussi formidables soient-elles, innovantes, écologiques, il faut penser à bien connaître les enjeux environnementaux, écologiques, pour maîtriser les éventuels risques qui sont associés. Et ça, ça signifie qu'il faut inclure un écologue, puisqu'on parle de biodiversité, en amont, dès la conception, au plus tôt, et bien sûr systématiser l'acquisition de cette connaissance naturaliste à travers des diagnostics, des états des lieux complets, naturalistes, faune, flore, les habitats. La pédologie, la qualité du sol, on en a parlé au début, les continuités écologiques, les fameuses trames vertes et bleues.
Et trames brunes.
Et trames brunes, tout à fait, puisque ce sont les sols. et puis, éventuellement, des enquêtes socio-écologiques pour aborder cette histoire d'attente des habitants. On parle de sociotopes, par exemple. Il s'agit de les cartographier, tous ces enjeux, de les synthétiser. Et bien sûr, d'établir des préconisations pour la construction et la gestion derrière sur le long terme.
Alors Marc, une réaction par rapport aux propos de Joachim sur la bonne connaissance des enjeux environnementaux pour maîtriser les risques ?
Oui, évidemment, je peux qu'apprécier cette idée d'intégrer, je me bats pour ça, intégrer des écologues dans les projets architecturaux.
Et en amont surtout.
Et à la fois, oui, en amont et aussi pendant le projet. Alors ce que je dis souvent, un peu comme une provocation, hein, c'est que pour moi, le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est parfois celui qui n'est pas construit. Et donc derrière, il y a aussi cette idée effectivement de sobriété. Je crois que les collectivités doivent aller vers plus de renouvellement urbain, d'adaptation de l'existant, construire sur l'existant, réhabiliter ce qui est déjà construit au lieu de s'étaler. Il y a certains territoires qui sont déjà un peu trop urbanisés, qu'il faudrait même parfois désaménager. On parle de désimperméabilisation. Et cette idée de sobriété, elle est portée aujourd'hui par des mouvements d'architectes aussi, c'est assez fort, hein, mais je pense au mouvement pour la frugalité, heureuse et créative de Philippe Madec, voilà, dont un des articles du manifeste, c'est de dire nous ne ferons plus de construction neuve en extension, on fera que de la rénovation. Voilà, et je plaide aussi pour qu'on essaie de systématiser dans les opérations d'aménagement un coefficient de pleine terre, c'est-à-dire un ratio minimal entre la part de pleine terre et des espaces verts et la part bâtie. Alors je peux rebondir sur l'exemple de l'écoquartier de Châtenay-Malabry, La Vallée. Je l'ai visité, je l'ai évalué dans le cadre du label. C'est effectivement
Le label écoquartier,
une des opérations qui m'a le plus séduit, parce que comme vous l'avez dit, elle fait vraiment la part belle à la nature en ville. On y trouve tout un tas d'innovation. Pour autant, on peut imaginer qu'à l'avenir, sur cette question de la pleine terre, on aille un peu plus loin. Dans cette opération, en faisant les calculs, on voit qu'il y a une perte nette d'à peu près 3 hectares de pleine terre entre l'avant et l'après. Et voilà, c'est de se dire à l'avenir, comment on va plus loin ? Est-ce qu'il ne faudrait pas désimperméabiliser 3 hectares pour compenser dans un autre secteur à proximité ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à avoir un nombre de lots réduit, finalement, pour laisser un peu plus de place à la nature ?
Alors, sur la vallée, on peut quand même apporter un début de réponse. C'est qu'il y a quand même une charge foncière, il y a le prix du foncier. Et puis, il y a énormément d'innovations et notamment un réseau de chaleur géothermique très, très innovant, puisqu'il va aller chercher sa chaleur dans le Lusitanien. Tout ça coûte extrêmement cher. Et donc, le ratio, malheureusement, nécessite qu'il y ait plus de bâtiments pour pouvoir équilibrer du point de vue économique cette opération, mais qui reste quand même très ambitieuse et en tout cas le démonstrateur des phages en matière d'éco-quartier. Alors, il me semble que le coefficient de biotope, Joachim, un sujet dont vous m'aviez déjà parlé et qui était, je crois, aussi d'origine berlinoise. Décidément, ça fait 2 fois qu'on parle de la ville de Berlin. On a beaucoup de choses à apprendre de cette collectivité.
Et oui, parce que quand on ne peut pas tout faire en pleine terre, puisqu'il faut quand même construire, dans un centre de cas, eh bien, Berlin a inventé ce coefficient de biotope, qui est un outil intéressant parce qu'il permet d'orienter la planification urbanistique. En fait, il s'agit tout simplement de calculer la part d'une parcelle qui va être dédiée à la nature, pas forcément en pleine terre. Il faut tout exploiter. Et ce coefficient peut être régulé, voire même imposé. Donc on peut travailler sur l'outil réglementaire de l'urbanisme. Et il incite les aménageurs, les opérateurs immobiliers par la suite à limiter l'imperméabilisation, certes, des emprises non bâties, ainsi qu'à utiliser le bâti dans toutes ses dimensions pour développer la biodiversité, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes en termes de faisabilité technique, de gestion ou de pertinence même, pour être tout à fait honnête. Parce qu'on peut le penser à certaines façades végétalisées un petit peu douteuses parfois, mais ce n'est pas grave. C'est un outil incitatif qui permet d'aller chercher comme ça un maximum de biodiversité à la parcelle.
Ok. Alors, justement, peut-être pourrions-nous avoir un très bel exemple de solution architecturale et technique, Marc, que vous pourriez nous présenter. Vous m'aviez parlé, lorsque nous avons préparé cette émission, du groupe scolaire des sciences et de la biodiversité.
Oui, effectivement, c'est une école élémentaire et maternelle qui est située en plein cœur de Boulogne-Billancourt et qui a été conçue en 2014 par les architectes Chartier d'Alix sous l'impulsion de la directrice Sophie de Ramon. Et c'est vraiment une vitrine d'un bâtiment favorable à la biodiversité pour plein de choses, mais notamment cette immense toiture végétalisée avec près de 2000 m² de prairies et autant de boisements sur le toit du bâtiment et une façade aussi qui est unique en son genre finalement parce qu'elle est inspirée des murs en pierre sèche. Elle laisse des infractuosités, des porosités pour que la nature vienne s'installer, y compris des nichoirs pour les oiseaux, etc. Elle a été faite en association avec un écologue.
Qui est autant
Aurélien Huguet,
voilà,
de son nom,
peut le citer,
qui
Aurélien
accompagne
Huguet.
Beaucoup le Chartier d'Alix.
Alors, je crois que ce projet, et c'est vraiment intéressant de le souligner, se fonde sur une approche biomimétique, c'est-à-dire une imitation technique des processus mis en œuvre par la nature.
Oui, effectivement, on peut dire que ça relève de l'approche biomimétique parce que le bâtiment se fonde sur ce qu'on observe dans la nature. Donc, en l'occurrence, une façade, inspirée d'écosystèmes pierreux dans lesquels la végétation vient s'incruster toute seule. Et en fait, l'idée de ce bâtiment, ce qui a été génial du côté de ces architectes, c'est qu'il va se végétaliser tout seul au fil du temps. Et ça, c'est dur à accepter quand même pour quand on est en ville par rapport à ce qu'on disait au début sur le sauvage.
Oui, c'est dur, mais en même temps, il n'y a pas de maintenance. C'est moins cher en maintenance, j'imagine.
C'est ça, et puis c'est beau. Alors nous, on a fait des inventaires sur ce bâtiment avec l'ARB, et puis on a constaté qu'ils avaient planté initialement à peu près une quarantaine d'espèces sur le toit du bâtiment. Et en quelques années, il y en avait beaucoup plus du double. Et donc, c'est cette belle idée de l'arrivée de la nature spontanée. Et voilà, la réussite de ce projet, c'est vraiment, je le redis, l'association dès le départ. Et c'est ce que fait Chartier d'Alix. Ils s'entourent d'écologues pour réfléchir à leur projet. Et donc, c'est une autre façon de faire. Finalement, il n'y a pas de bâtiment idéal pour la biodiversité. Il n'y a pas une recette toute faite. Mais c'est dans ces associations, finalement, entre différentes expertises, qu'on a une recette intéressante.
Très bien. Alors, merci. À côté de ces bâtiments conçus dès le départ pour accueillir la biodiversité, il y a l'espace public. Et là, des progrès sont possibles également. Et je voudrais d'ailleurs aborder la question de l'éclairage public. Nous en avions parlé lors d'une précédente émission. L'éclairage public, notamment quand il est agressif, contribue à la pollution nocturne. Et je rappelle aussi que l'éclairage nocturne a augmenté de 94% en France en 25 ans, d'après l'ADEME. Joachim, vous pourriez nous en parler ? Oui, l'éclairage public qui en plus représente plus de la moitié de la dépense énergétique des communes.
Et oui, non seulement en tout ça, et en plus c'est un facteur de pression sur la biodiversité puisqu'il modifie cet éclairage public, les cycles alimentaires, reproductifs et les déplacements des espèces faune qui sont dans les alentours. Alors des solutions émergent et sont testées sur ce sujet. L'un des moyens simples de réduire la pollution lumineuse, c'est de diriger en fait la lumière vers le sol et pas vers le ciel ou vers les végétaux. Ça semble bête, mais constatez autour de vous le nombre de lampadaires qui n'appliquent pas cette règle basique. En couplant ça à des éclairages dits intelligents, c'est-à-dire qui éclairent au juste besoin lorsqu'il y a un passage et puis qui augmentent la luminosité, qui la redescendent, eh bien, ça devient des éclairages énergétiquement plus économes, parce qu'ils sont souvent basés sur des technologies LED, et puis également écologiques. Et ça, on a une double vocation qui est quand même assez intéressante désormais. C'est d'ailleurs ce qu'ont développé deux de nos filiales en symbiose, Eiffage Énergie Système et Eiffage Route, avec une solution intégrée, systémique, qui s'appelle Luciole, et qui associe un revêtement de chaussée claire, qu'on appelle optométrique, avec des luminaires LED, orienté vers le sol, bien sûr, et a servi à une détection automatique d'usagers.
Alors, cette solution a été mise en œuvre pour la première fois en France dans les Ardennes, à Revin, le long de la Meuse, où il y avait d'ailleurs une présence assez forte d'oiseaux nocturnes et de chauves-souris. Et ça fonctionne formidablement et les économies d'énergie sont au rendez-vous. Donc, c'est une solution qui est appelée, à mon avis, à être largement déployée dans les années qui viennent. Alors, plus généralement, pour renforcer encore les chances de reconquête de biodiversité en ville, spontanément, on pense à des solutions très simples qui vise à recréer des habitats propices, les nichoirs à oiseaux, à chiroptères, les jardinières en béton avec des dispositifs mellifères, des éléments végétaux de type arbre mort laissés sur pied pour que les insectes puissent s'y pondre, les hôtels à insectes, les ruches, etc. Alors, dans toute cette profusion de dispositifs, parlons par exemple du sujet des abeilles qui est devenu quand même presque commun. Qui n'a pas, en tant qu'entreprise, son rucher et le miel offert traditionnellement aux clients ou aux salariés? On assiste à un engouement sans précédent, hein, y compris chez les particuliers d'ailleurs, et les villes se révèlent être des espèces favorables à l'accueil des pollinisateurs, surtout depuis que, comme vous le rappeliez Marc, les produits phytosanitaires ont été interdits dans les espaces publics, et on a l'impression que la pollution urbaine serait presque moins toxique pour les abeilles que les pesticides en zone rurale. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de toutes ces ruches qui sont installées sur les toits des bâtiments de Paris?
Eh bien, je dirais que ces ruches, c'est à la fois le symbole des effets de mode autour de la biodiversité. On a eu plein d'effets de mode comme ça, le potager sur son toit, la ruche, certaines formes de murs végétalisés, de toitures végétalisées. Alors, il en faut. Je pense que ça part d'une bonne intention au départ, mais c'est aussi un autre symbole, celui de la complexité de la biodiversité et du fait que les choses ne sont pas toujours si simples. Alors, l'abeille domestique, c'est un porte-étendard, c'est une sentinelle de l'environnement, de sensibilisation, et puis surtout, elle produit du miel. C'est pour ça qu'elle nous intéresse. Ceci étant dit, les entomologistes, les spécialistes des insectes se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a des possibles concurrences entre l'abeille domestique, qui n'est qu'une seule espèce, et tous les autres pollinisateurs sauvages pour le nectar, pour l'habitat dans les villes. Voilà, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages qui ne sont pas domestiques, du coup, qui sont la plupart solitaires, qui occupent des habitats tout à fait différents et qui font la richesse de la biodiversité, qui participe tout autant à la pollinisation. Et donc, on est en train de se rendre compte maintenant qu'il faut éviter de saturer l'espace urbain de ruches, et les collectivités commencent un peu à réduire ces effets de mode d'installer systématiquement des ruches sur les toits, etc., et de privilégier plutôt la protection ou la restauration d'habitats pour les pollinisateurs sauvages. Et comme vous l'avez dit, eux, ils vont dans le bois mort, ils vont dans les milieux sablonneux, ils vont dans les petites pierres, etc. Donc cette connaissance naturaliste progresse dans les villes et c'est intéressant.
Alors, la connaissance naturaliste progresse, la réglementation aussi a progressé, aussi bien concernant la biodiversité en général que celle spécifique à la ville. Et donc, nous avons voulu interroger quelqu'un qui a longtemps été législateur, puisqu'elle était députée européenne. Et c'est l'actuelle directrice générale de l'ONG Humanité et Biodiversité, Madame Sandrine Bellier.
En tant que directrice d'Humanité et Biodiversité et ancienne députée européenne, que vous évoque la notion de nature en ville ?
Qu'est-ce que ça m'évoque? Il n'y a pas vraiment de définition stricte de ce qu'est la nature en ville, puisque ça va dépendre des territoires. Mais dans tous les cas, la nature présente toujours une partie de la solution. C'est une solution qui présente de multiples intérêts dans un milieu urbain. Alors, je vais vous donner trois exemples. La mise en place d'espaces verts, par exemple, ou la végétalisation des berges ou des cours d'eau, ou encore la création d'étangs ou de mares dans un milieu urbain, bah, ça participe très très largement à réduire le risque d'inondation. Et on en connaît de plus en plus et on voit les effets dévastateurs. Autre exemple, la mise en place de parcs, la plantation d'arbres, la revégétalisation de friches, par exemple, c'est un excellent moyen de réduire les îlots de chaleur Et puis, dernier élément que ça m'évoque, et il est important pour moi, c'est que la nature en ville, c'est bon pour le moral. Donc, voilà trois exemples qui illustrent pourquoi c'est pas inutile de mettre de la nature en ville. Et puis, du côté d'HEB, d'Humanité et Biodiversité, on a un credo qui est la nature partout, pour tous, avec tous. Et puis, on a un outil pour ça qui sont les oasis nature. Et on sort bientôt un guide pour faire des oasis sur son balcon. Donc, pour amener de la nature. Alors, c'est pas seulement une responsabilité d'élu et d'avoir des parcs, des berges. Bien sûr, c'est important. Mais aussi, chacun d'entre nous, au niveau de son logement, peut participer à mettre de la nature en ville.
Alors, quelques mots, Sandrine. Est-ce que vous avez observé un changement dans les réglementations, d'une part, et dans la demande publique, d'autre part ?
Alors, oui et non.
C'est-à-dire ?
Alors, si je dois vous illustrer un peu les différents éléments que moi j'ai pu noter en termes d'évolution. Alors, tout est parti du Grenelle de l'environnement en 2008. C'est là qu'on a pris la dimension de l'importance de préserver la nature ordinaire. Alors, le premier instrument qui a vraiment joué un rôle pour introduire la nature en ville et dans les documents de planification, ce sont les trames vertes et bleues. Ça a été le premier instrument assez utile pour permettre cette prise en considération des continuités écologiques. Donc, il ne suffit pas seulement de préserver des espaces, d'avoir des réserves naturelles, mais d'avoir des couloirs de biodiversité et donc forcément d'introduire de la biodiversité dans les milieux urbanisés. Et puis, autre évolution assez notable, la loi de 2016, puisqu'on passe d'une loi de 76 sur la préservation de la nature à une loi dont le titre est la restauration de la biodiversité. Restauration de la biodiversité, donc remettre de la biodiversité là où il n'y en a plus. Et puis, un objectif là qui s'impose, qui est le zéro perte nette de biodiversité. Et puis, j'ai pas fini, parce qu'il y a eu quand même un autre élément, c'est l'interdiction d'usage des pesticides dans les communes. C'est pas la nature en ville, mais ça participe à la préservation de la biodiversité en ville. Et puis, enfin, et je vous dis, ça s'accélère et on va avoir je pense que ça va s'accélérer encore. En 2018, dans le plan biodiversité, le plan biodiversité réaffirme un objectif qui est le zéro artificialisation nette, qui va être repris par la Convention citoyenne pour le climat, qui d'ailleurs va en faire un chapitre entier, avec tout un paquet de propositions qui, en principe, devraient être reprises dans une loi qui sera présentée début 2021 à l'Assemblée nationale. Et puis, enfin, et c'est là où je pense qu'on va avoir un coup d'accélérateur, on va avoir une prochaine stratégie nationale pour la biodiversité pour les 10 prochaines années sur le constat d'échec des deux dernières. Et parmi les 13 objectifs de la communication de la Commission européenne pour la future stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon de 2030, qu'elle a présentée au Parlement européen et au Conseil, il y a une mesure, et ça c'est très nouveau, c'était dans aucune autre stratégie européenne. Parmi ces 13 mesures, il y a une mesure qui concerne directement la nature en ville, c'est la mesure 11. Et cette mesure prévoit une obligation pour les villes de 20 000 habitants ou plus de se doter d'un plan ambitieux d'écologisation de l'espace urbain. Donc, sans aucun doute, ça va devenir une obligation communautaire. Et on devrait, je pense, dans les années à venir, avoir plus de nature en ville. Et je dois vous avouer que pour Humanité et Biodiversité et pour moi-même, eh ben, c'est un élément dont on se réjouit.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sandrine Bellier, pour toutes ces explications précises, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Humanité et Biodiversité et puis vous êtes ancienne députée européenne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cette émission sur Radio Immo. Des hommes. Merci beaucoup.
Alors, Marc, Joachim, une réaction sur ce sujet des perspectives d'évolution réglementaire ?
Sandrine Bellier a tout dit. Enfin, on voit qu'il y a un coup d'accélérateur vraiment sur ce thème de la nature en ville, donc c'est très intéressant. J'ajouterais aussi que quand on regarde un peu le droit de l'urbanisme, par exemple, la réglementation, elle existe déjà. Oui. Il faut l'appliquer.
Comme souvent.
Mais oui. Et par exemple, les plans locaux d'urbanisme peuvent être très, très ambitieux en matière de nature en ville. L'outil est là. Par contre, c'est la volonté politique derrière qu'il faut pour le mettre en œuvre. Voilà, et peut-être citer, on a un outil qui s'appelle le Concours Capitale Française de la Biodiversité depuis 2010 et qui est une machine à récolter les bonnes pratiques dans les collectivités françaises et qui montre comment elles s'appuient sur ces outils réglementaires pour changer les choses.
Très bien. Moi, j'aurais un petit bémol. Sandrine l'a un petit peu évoqué. La réglementation, effectivement, avance bien. On peut quand même parler, en termes de demande publique, d'une faiblesse, souvent, avec peu ou pas d'éco-conditionnalité d'un certain nombre de projets. En gros, pour faire simple, lorsque ce n'est pas la collectivité qui demande quelque chose en matière de biodiversité, vous pouvez avoir plein de bonnes intentions et finalement, vous n'êtes pas vraiment retenu sur l'idée d'avoir une gueule verte, hein, si je puis dire, ou de faire des propositions en matière de biodiversité en ville. C'est très dur, il faut souvent se baser sur des démarches volontaires qui ne sont pas toujours sanctionnées positivement par le haut dans les réponses. Et ça, la commande publique est un petit peu à la traîne, il faut le rappeler, sans cesse le rappeler.
Oui, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans une précédente émission. Effectivement, rares sont les appels d'offres dont le poids du critère environnemental, quand il y en a un, est suffisant pour être vraiment incitatif. Et puis très souvent, ce critère environnemental est un petit peu fourre-tout, alors qu'il faut parler de carbone, d'économie circulaire, de biodiversité. Les sujets sont nombreux. Et là aussi, c'est un appel aux élus, hein, finalement. Ils ont le pouvoir de modeler une commande publique environnementalement ambitieuse. Il faut le faire. Il faut vraiment qu'ils utilisent ce levier et on est ravis, les entreprises sont ravies quand elles peuvent tirer leurs pratiques vers le haut et être différenciantes du point de vue environnemental. Je crois qu'au-delà de l'aspect réglementaire, il y a des initiatives volontaires qui viennent encourager la prise en compte de la biodiversité en ville, à l'image d'un label assez récent, mais qui a très très bien démarré, c'est le label Biodiversity.
Oui, merci Valérie, vous avez raison d'en parler. Ce label, il a été créé par le CIBI, qui est une association, et CIBI veut dire Conseil International Biodiversité et Immobilier, association créée en 2013 et qui est née du constat assez simple que l'immobilier a un véritable rôle à jouer dans ce nouvel urbanisme durable qui fait une part belle à la biodiversité. Et il est à l'origine de ce fameux label Biodiversity qui compte aujourd'hui 200 opérations engagées et 75 opérations labellisées, strictement parlant, Biodiversity. Il permet, ce label, pour un constructeur ou un promoteur immobilier d'afficher et de mesurer la prise en compte de la biodiversité au sein de son projet, au sein des projets, autant sur la stratégie déployée que sur l'architecture écologique du projet et les services rendus aux usagers. C'est une affaire sérieuse, c'est basé sur la notion de potentiel écologique qui a été développée par un écologue suisse, celui-là, pas berlinois, Guy Berthoux. Ah oui. Et donc c'est un label vraiment scientifiquement poussé, d'ailleurs il est entouré d'un aéropage d'experts scientifiques à travers un conseil scientifique qui d'ailleurs essaye de tirer le label vers de nouvelles dimensions scientifiques ou de questions émergentes, le cas des friches urbaines, le zéro artificialisation net, comme on a évoqué déjà plusieurs fois, ou la biodiversité grise encore.
Très bien. Alors, en conclusion, il n'y a pas de conclusion définitive, en fait, à ce sujet de la biodiversité, qui est à la fois très ancien, on le rappelait en introduction, mais également qui revient de manière très forte. Je pense qu'on peut dire que la reconquête de la ville par la biodiversité est ancrée dans une espèce de relecture contemporaine des zones urbaines à l'aune du changement climatique. Je retiendrai surtout, comme pour quasiment tous les sujets de développement durable, que les clés de réussite résident dans l'anticipation, très en amont de la biodiversité, dans l'élaboration du projet urbain. Marc, vous avez parlé d'intégration des compétences d'écologues dans les équipes en charge des réflexions sur la fabrique de la ville. Vous avez parlé de génie écologique et donc finalement écologue, paysagiste, le plus en amont possible aux côtés de l'urbaniste, de l'architecte et des ingénieurs qui font la ville. C'est la première condition pour essayer de réussir un projet. Donc cette manière nouvelle de travailler le projet urbain à l'aune de la biodiversité nécessite un changement culturel que seules les formations des étudiants aujourd'hui permettront de faire. Alors je voulais rappeler, pardon, mais sans voir midi à ma porte, mais j'ai une tendresse particulière pour un master qui a été créé par Eiffage en 2009 avec l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, justement parce que ce master professionnel spécialisé qui s'appelle Bioterre cherchait à œuvrer et à colmater finalement une brèche existante dans les différentes formations d'enseignement supérieur pour travailler sur les interactions entre BTP et biodiversité et comprendre toutes ces interactions. Alors, le succès du master n'est plus à démontrer aujourd'hui, ce qui montre à quel point d'ailleurs il y a un besoin de compétences pour comprendre tous ces sujets entre environnement, biodiversité et fabrique de la ville. Bref, la clé la plus importante est peut-être simplement de reconnaître enfin avec modestie et humilité que nous avons un besoin vital de nature dans des existences devenues majoritairement urbaines. Je vous remercie et à très bientôt.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.